Les micros de Fréquence Oscillée voyagent pour vous faire respirer et découvrir l'air du pays de la Haute-Sarthe. Et vivre des rencontres, des échanges, des entretiens en direct d'une manifestation, d'un lieu, comme si vous y étiez.
La 8e édition du festival Qui cloche s'est déroulée les 29 et 30 juin au prieuré de Vivoin. Fidèle au festival de petites formes spectaculaires à la campagne, organisé par l'association Festival en Pays de Haute-Sarthe, votre radio fréquencier y était pour une retransmission en direct. Tout l'été, retrouvez les interviews des artistes et des différents acteurs présents.
Alors toujours en direct depuis Vivoin pour ce festival qui cloche, il y a encore une petite heure, puis il y a aussi un espace concert après 19h, mais une petite heure pour voir encore quelques-uns des spectacles. Et puis dans ce qui cloche, il y a aussi toute une volonté de mettre en valeur d'autres savoir-faire. Il y a donc le village associatif qui permet d'accueillir quelques associations qui travaillent dans différents secteurs. Et puis il y a aussi des artisans. Des artisans dans des domaines parfois étonnants, pas forcément les plus courants. D'ailleurs, courir comme ça, je sais pas trop si ça peut marcher. Pardonnez-moi, alors, on va pas partir sur une mauvaise série de mauvais jeux de mots. Non, c'est plutôt marcher, hein. Voilà. Puisque nous avons avec nous Sylvain Delporte. Sylvain Delporte fait une activité qui n'est pas une activité des plus courantes aujourd'hui, puisqu'il est sabotier.
En voie de disparition, ouais.
En voie de disparition. D'ailleurs, on va le signaler pour que au niveau de la biodiversité, vous soyez protégé.
Merci.
Bonjour. Alors, Sylvain Delporte, vous êtes de Saint-Jean-d'Assé.
Voilà.
Sabotier, ça fait longtemps que vous pratiquez cette activité ?
C'est ma 13e année. On nous a dit qu'il allait y avoir un bug en l'an 2000. Ben moi, j'ai eu mon bug. Je suis devenu sabotier en l'an 2000.
Alors, pourquoi sabotier ? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette activité ?
Ben moi, j'étais dans le bois déjà depuis 91, en fin de compte. J'ai suivi le cursus de menuiserie et d'ébénisterie. Et puis, un peu par hasard, je me suis retrouvé au musée du bois de Jupille, et embauché. Et un ancien de La Ferté-Bernard, monsieur Marcelin, Roger, nous a montré comment faire marcher les machines à sabots pour le musée. Et donc, on a recréé des modèles, et puis bah, j'ai mis le pied dedans, et ça fait 13 ans.
Je crois que vous avez l'habitude. On va se régaler. Donc, en fait, de sabots, donc, vous travaillez sur des sabots en bois, et uniquement en bois, parce qu'on a aussi connu les sabots en cuir à une époque. Ça, c'est pas votre domaine.
Ça, c'est la galoche. Alors, c'est un autre métier, galochier. Moi, je suis sabotier, hein, sabotier traditionnel.
Le sabot, ce n'est que le bois.
Le sabot tout bois, avec certains demi-couverts avec une bride de cuir, et les découverts pour les dames. Toujours avec une bride de cuir.
Alors, vous travaillez quoi comme bois, en fait ? Ce qu'on vous voit travailler ici, c'est ça qui est bien, c'est qu'on vous voit tailler comme ça le sabot avec des machines, vous en parlez tout à l'heure, très simples d'ailleurs. Quel bois est travaillé ?
Alors, ça dépendait de la région. Le sabotier travaillait avec son bois local, quoi. Nous, en Sarthe, on était principalement en hêtre, en noyer et en aulne ou en bouleau.
Il y a des différences de qualité, en fait
Alors, bah, il y a des bois qui sont appropriés plus en bois d'été et d'autres en bois d'hiver. Donc plutôt le frêne, le hêtre, le charme, l'orme, c'était plutôt des bois d'hiver. Et les bois légers, en fin de compte, sont plus appropriés en été. Sinon, en fait, dans l'eau, les bois légers vont avoir tendance à absorber comme des éponges, donc ils ne vont pas être agréables à porter par temps humide.
Alors, le travail du sabotier, c'est mettre en forme du bois. Vous utilisez quel type d'engin ? Parce qu'on vous a vu travailler, je vous laisse décrire vous-même ce que vous utilisez ici.
Alors,
impressionnant,
oui. Ouais, oui, c'est assez compliqué. Parce
on se dit qu'il ne faut pas laisser le doigt là. Hein.
Non, à moins qu'on veuille un arrêt de travail, mais enfin, ce n'est pas le but. Mais il faut compter 7 outils manuels pour faire une paire de sabots.
Ouais, alors lesquels par exemple ouais.
Alors on va commencer d'abord par dégrossir une bûche avec une hache à bûcher.
Ouais.
Donc là on va donner au carré en fait notre forme extérieure du sabot. Donc on prend deux bûches de bois pour faire une paire évidemment. Et donc on va donner une forme au carré en gros. Et ensuite on va utiliser un grand couteau qui s'appelle le paroir, qui est articulé sur une boucle. Avec une petite virgule métallique qui tient sur la boucle. Et en fin de compte, c'est un bras de levier. Et avec ce grand couteau, le paroir, on va donner toute la forme définitive extérieure du sabot.
Donc c'est l'engin que vous utilisez ici et qu'on manie finalement d'une seule main.
Voilà. Et de l'autre main, on tient le sabot et on le positionne devant la lame.
Alors cette lame, elle est évidemment hyper bien entretenue. Je suppose qu'il faut vraiment y faire très attention.
On peut l'affûter, si on travaille beaucoup, on peut l'affûter deux fois dans la journée.
Alors le geste lui-même, parce que c'est, moi, j'ai, pour vous dire, moi j'ai par exemple, j'ai une faux chez moi. J'ai déjà essayé de couper de l'herbe quand elle était bien haute avec une faux. Je suis incapable d'utiliser une faux. Et puis à côté, quelqu'un prend le même engin et il va nous faire des belles coupes. On se dit là, le monde est vraiment mal fait. Là, c'est pareil, n'importe qui n'est pas capable. Il y a un savoir-faire. C'est quoi le feeling qu'il faut par rapport à des engins comme ça pour tailler correctement le morceau de bois sur lequel on est?
Avant d'acquérir le tour de main avec l'outil proprement dit, en fait, on va surtout apprendre l'affûtage. L'affûtage va être primordial dans le travail. Avec un outil qui coupe mal, évidemment, on va mal travailler, mais avec un outil bien affûté, on va simplifier. Donc tout l'apprentissage démarre par l'affûtage. On a des outils qui sont assez compliqués à affûter en saboterie. Et donc, mon ancien, il m'a dit, t'as de la chance que je suis vieux, sinon je lèverais le pied et puis je t'en mettrais au derrière. Il portait plus de sabots, donc ça va. donc, il faut apprendre, il faut affûter, il faut...
Donc, avec cet engin-là, vous taillez, vous mettez en forme. Et alors après, qu'est-ce que...
Alors après, on va...
Dans la série des 7 outils, vous avez dit tout à l'heure.
Voilà, là, on est aux deux premiers pour la mise en forme extérieure. Ensuite, on va pouvoir amorcer la creuse. Avec une vrille que tout le monde connaît, une vrille pour faire des avant-trous. Et ensuite, on va creuser notre sabot principalement avec une cuillère. Alors, on peut un peu l'image de la cuillère qu'on utilise pour faire le trou dans le melon, pour mettre le bon petit coup de vin cuit. Voilà, le petit vin cuit qui va bien dans le fond, là. Et en fait, nous, j'ai oublié de préciser, on utilise le bois vert, c'est-à-dire gorgé d'humidité, fraîchement coupé. C'est plus facile à travailler. Et une fois le sabot.
Mais après, ça ne retravaille pas
Si, par contre, il faut tenir compte du travail des bois. En fonction des différents bois, il y a un retrait plus ou moins important. Et donc, on va creuser notre sabot comme pour faire le trou dans le melon, exactement pareil. On fait des coquilles, on appelle ça des coquilles. Et donc, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On avance, on a une jauge pour aller vérifier la profondeur. Et ensuite, on va utiliser deux autres outils pour la finition intérieure qui s'appellent le boutoir, les fameux coups de boutoir. Qui se donne sur le talon du sabot pour finir le talon. Et on a une rouane, alors c'est un peu comme une petite langue de dragon qui coupe sur deux côtés, qui elle va aller finir jusqu'au fond, jusqu'aux orteils. Et on l'appelle aussi langue de belle-mère, parce que je sais pas, elle est tranchante.
Je n'ai pas de commentaire, ma belle-mère m'écoute peut-être.
La mienne est très gentille.
Donc voilà pour les engins que vous utilisez. Le sabot, il est toujours en un seul morceau ou est-ce qu'il y a des collages de pièces? Je pense, par exemple entre le dessus et la semelle.
J'en ai vu qui étaient faits alors en sabot montant avec des hauts talons en fait pour les femmes et le talon peut pas être fait dans la masse de bois parce qu'il va casser donc on est obligé de rapporter un élément à ce moment.
Sinon vous ce que vous faites c'est toujours en un seul bloc,
voilà,
un seul morceau.
Ouais, tout en bois.
Aujourd'hui, les gens qui achètent des sabots, c'est pour les porter, pour du décoratif, par nostalgie.
Je dirais les deux, mon capitaine. les
sabots... Non, j'ai pas encore atteint ce grade-là. <façon. rire>
Les sabots à porter, alors ça va être les jardiniers, quelques pêcheurs, chasseurs, ramasseurs de champignons, des gens qui ont des bêtes à aller nourrir l'hiver, des poules, les chevaux. Et puis sinon,
La botte en caoutchouc a pas supplanté le.
Si, c'est ce qu'a tué justement le métier de sabotier, la botte. Et on a aussi les danseurs folkloriques qui portent les sabots.
Bien sûr, ouais. Pourquoi est-ce que vous êtes installé ici à Saint-Jean-d'Assé? Vous étiez de la région
Je suis né à Celleriboul juste à côté.
Ah oui, c'était.
Et puis mes parents ont déménagé à Saint-Jean et puis. Moi, je suis resté dans le pays, quoi.
Alors, est-ce que c'est un métier sur lequel il y a un marché réel? Comment vous distribuez votre production, finalement?
Un peu comme aujourd'hui. Là, je me déplace de foires, de fêtes, de marchés médiévaux, fêtes à l'ancienne, un peu partout, plutôt dans les pays, enfin dans les régions, dans les départements limitrophes,
Mais
je veux dire.
Qui vend aujourd'hui des sabots? On en trouve où si on ne connaît pas un sabotier? Vous avez des boutiques qui vous revendent éventuellement, même des boutiques d'artisanat ou...
Alors dans la décoration, je pourrais éventuellement avoir des boutiques, mais dans le sabot à porter, on est souvent amené à rectifier au pied des gens. On a toujours un pied plus fort que l'autre, donc il faut impérativement, je dirais, avoir le sabotier sous.
Alors si quelqu'un veut des sabots, comment il fait? Il vient vous voir, c'est du sur-mesure.
Je prends la mesure du pied, voilà.
My sabotier is rich, c'est un peu ça.
Je prends la mesure du pied, et puis après je vais essayer, et puis c'est le client qui va me dire s'il se sent bien dedans ou est-ce qu'il faut que je rectifie. Alors après, on peut tricher un peu en mettant des chaussons. Je vends aussi des chaussons en feutre traditionnel, vraiment du chausson de sabot. Donc là, on a un peu plus de marge, on va dire. On peut tricher un peu.
Il faut combien de temps pour faire une paire de sabots?
Alors, il faut compter entre 1h30 et 5h. Si on fait tout à la main, il faut compter 3 bonnes heures pour faire une paire de sabots. Et moitié moins de temps avec l'aide des machines, 1h30.
C'est-à-dire que vous avez aussi des machines?
J'ai les machines des années 20, ouais, 1920.
Ah oui, récente alors là.
Oui.
Ben c'est, les années 20 quand même.
C'est les dernières en plus.
C'est les dernières parce qu'après on a plus fait parce qu'on faisait plus de sabots. Oui. Ouais. Et ces machines vous permettent donc d'accélérer la production et d'arriver à 1h30, c'est ça?
Voilà, ouais.
Et c'est le même produit au bout du compte que quand il est fait à la main, ça change quelque
chose?
Non,
à la main on est quand même un peu plus précis parce qu'on va refendre le bois. Que quand on fait à la machine, on a tendance à scier le bois et donc à couper la fibre. Donc il va être un petit peu de moins bonne qualité, mais ça joue à très peu. Dans le bois de hêtre, c'est pas gênant. Dans les bois tortueux comme le charme ou le platane, là, c'est un peu plus délicat par contre.
C'est quelque chose qui s'offre par exemple à des enfants, le sabot enfant, c'est quelque chose qui marche aussi, non?
J'ai pas beaucoup de clientèle en enfant, mais j'ai eu des tout petits. Alors je fais du sabot avec des talonnettes en cuir qui tiennent la cheville en fin de compte. Et il marche, c'est incroyable. On leur met au pied et ils courent avec, mais c'est épatant. J'ai une petite vidéo de mon filleul qui court avec ses sabots. Alors, il avait un an et demi et on était tous éberlués de voir comme s'il avait toujours eu ça au pied. En fait.
Alors, si on veut vous rencontrer en dehors des manifestations comme Kikloche, vous avez un point fixe sur Saint-Jean-d'Assé?
J'ai mon atelier à Saint-Jean.
Alors, vous pouvez nous dire où il est, il n'y a pas de souci.
Il est entre la Nationale et l'église, sur la rue principale de Saint-Jean-d'Assé, au numéro 39.
Voilà.
Donc, le mieux, c'est de me passer un petit coup de téléphone pour être sûr que je sois là, parce que je suis souvent parti en vadrouille.
On peut donner le téléphone, il n'y a pas de problème.
Ben, c'est possible, ouais. C'est le 02 43 25 25 17.
Voilà, et là on peut vous rencontrer et on peut se faire des sabots sur mesure.
On peut venir voir, je peux faire une démonstration sur machine sans problème.
Voilà, très bien, on vous remercie Sylvain Delporte de venir nous expliquer un petit peu ce qu'était cette activité de sabotier. Ça attire pas mal de monde hein, quand même, les gens ont envie de voir le coup de main et ça intrigue sérieusement.
On se demande toujours comment on peut aller jusque dans le fond. Ouais.
Ah oui, c'est sûr. Très bien, c'est un savoir-faire, c'est ça aussi la qualité de l'artisanat.
Merci beaucoup.
Sylvain Delporte. Dans quelques instants, donc, on va retrouver d'autres intervenants sur cette manifestation qui cloche. Je vous rappelle qu'après 19h, on aura un petit débriefing final avec les organisateurs, avec Sylvie Foresto et Hubert Géga pour tirer un bilan de ce qui cloche 2013 à Vivoin.
Ça sent bien la saucisse, hein. Ici toujours, il est bientôt 19h, hein. C'est l'heure de bientôt se mettre à table. En tout cas, ça sent bien la fête et la fête se termine malheureusement. Avant de faire un débriefing avec les organisateurs tout à l'heure, dans quelques minutes, nous allons retrouver en fait la dernière compagnie du jour en fait. Hein. La compagnie Alice, c'est un groupe artistique et j'ai le plaisir d'accueillir Virginie. Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, bonsoir, bientôt 19h, oui, bonsoir. Vous venez de Nantes.
Tout à fait.
Et vous êtes venu nous présenter du cinéma ici. De quoi s'agit-il exactement?
Alors, on a une caravane cinéma, c'est le plus petit cinéma de France en fait. On a une caravane transformée en cinéma 4 places, qui est le cinéma d'un monsieur, je ne sais pas si vous connaissez. Alors j'ai demandé beaucoup aujourd'hui si les gens connaissaient, il n'est pas très très connu, mais nous on l'aime beaucoup, qui est d'un réalisateur qui s'appelle Benjamin Minoret, hein, qui est un réalisateur un peu atypique, qui a à un moment donné dans sa vie claqué la porte au cinéma classique pour faire du cinéma de rue, d'être à la rencontre des gens, et d'inventer des histoires avec les gens et d'en faire des films. Et de ces films, il a claqué la porte au cinéma, il passait pas dans les cinémas classiques, donc... Il a des amis qui lui ont donné une caravane pour la transformer en cinéma 4 places.
Et vous, vous êtes en quelque sorte les distributeurs de ces films. Est-ce que vous allez directement en contact des habitants, dans les rues, sur les places, avec votre caravane, dans les parcs, pour présenter ces films?
Voilà, on a pris la relève parce que Benjamin, bon, il est né en 1929, donc il commence un peu à fatiguer, puis c'est un personnage un peu atypique, donc... On est toute une équipe, qu'on s'appelle d'ailleurs l'équipe Minorette, à prendre le flambeau de ce cinéma 4 places. Effectivement, contact direct avec les gens, c'est ça qui est... Parce qu'on offre un court-métrage, en fait. On offre un court-métrage, on a une petite salle d'attente de 4 places, où on prend le temps de rencontrer ces 4 personnes qui sont en face de nous, avant de décider ce qu'on va leur offrir comme court-métrage. Donc il y a ce moment de discussion et d'échange, hein, autour de la vie, autour du cinéma, autour de Benjamin, autour de Vivoin aussi parfois, enfin voilà, ça, selon avant de leur offrir, et puis bien sûr selon leur couleur de yeux, oh c'est pas beau ça, la couleur des yeux, la couleur d'yeux, c'est pas beau non plus, la couleur des yeux, la forme du t-shirt, des lunettes, l'âge aussi bien sûr, hein, puisqu'on a des films qui s'adressent plutôt à un public adulte, et puis des films tout public.
Alors c'est vrai que vous avez déjà, depuis 2007, vous êtes installé dans 36 villes et villages différents.
Même plus que ça, parce que la plaquette, elle est vieille.
La plaquette. Ça fait au moins 130 jours d'ouverture, près de 10 000 entrées en court-métrage, 30 ateliers d'éducation à l'image, des tournages, des spectacles, des aventures folles et utopiques créées avec les habitants de Nantes. Parce que vous êtes en fait de la région de Nantes, et on parle même de système Minorette.
C'est vraiment ça, c'est-à-dire que Benjamin Minorette, au-delà de la caravane cinéma, c'est tout un projet de cinéma de rue, ce que je vous disais, c'est-à-dire de rencontre aussi, parce que ce qui est incroyable dans le cinéma, c'est l'aventure humaine aussi, hein, que le cinéma permet. D'ailleurs, il y avait un film, je ne sais pas si vous les avez rencontrés, un film qui a été fait avec les habitants de Vivoin, donc on est dans cette même filiation où... sur un tournage, on a besoin de tout le monde. On a besoin effectivement d'acteurs. Là, c'est ce qui est le plus visible. Le réalisateur, le scénariste, mais aussi le pompier qui va faire de la fausse pluie, le cantonnier qui va arrêter la circulation, les figurants, le couturier, le soudeur. Enfin, donc tout d'un coup, l'histoire d'un tournage est une histoire collective. Et c'est faire œuvre avec toute une population. Et tout d'un coup, ça devient des projets effectivement très forts. Donc on a fait des films avec Minorette, hein, lui il a passé sa vie à faire ça. Nous avec Alice on l'accompagne depuis 2007, donc où on a réalisé des courts-métrages à Nantes, à La Rochelle, et on continue cette histoire de cinéma de rue, c'est-à-dire d'aller chercher dans l'espace public aussi comment on peut à la fois projeter des images, les fabriquer en associant les habitants à ces aventures-là.
Parce que vous êtes à Vivoin cette semaine, enfin ce week-end en tout cas, et Vivoin vous connaît déjà.
Oui.
Avez fait un projet, vous l'avez évoqué.
Une création en fait, on a fait une création, j'aime pas le mot projet. On a fait une œuvre, une création avec les habitants cet hiver, en fait, c'était un portrait de rue. Donc un portrait d'habitants, de comment on redécouvre un village, une ville, un quartier à travers ses habitants. On redécouvre aussi la notion d'habiter. Et donc on a invité, là on était avec un studio photo ambulant, et donc on a invité les habitants de Vivoin à venir prendre la pause photographique, pause vidéo. Donc il y avait aussi des portraits vidéo en noir et blanc. Et on a fait toute une balade dans la ville pour le 21 décembre, on est venu. Donc c'était aussi pour nous l'occasion qui cloche de revenir un peu sur un lieu très très fort en émotion là cet hiver, où on a vécu une belle aventure avec les habitants de Vivoin. Donc c'était aussi une façon de les retrouver 6 mois plus tard avec des photos qui sont restées aussi, quelques photos. Il y en a beaucoup qui sont tombées, mais il y en a encore qui sont restées.
Voilà, on peut encore voir ces photos hein, dans le centre-bourg de Vivoin. Moi j'en ai vu une très belle en arrivant justement en noir et blanc, je crois.
En noir et blanc. C'était un travail en noir et blanc.
Ouais. Justement, en fait, le travail du cinéma, ça correspond à ces festivals de spectacles de formes spectaculaires, de petites formes spectaculaires. J'ai du mal à de petites formes, voilà. Ça correspond, ça rentre, parce qu'au début de Kikloche, finalement, le cinéma n'était pas trop présent. Maintenant, vous avez, il y a vous, la caravane de Benjamin Minorette, Alice, et puis il y a aussi le court-métrage Pulp Fiction, réalisé par Johan View. Le cinéma, ça peut être aussi des petits instants de création à partager avec le public.
De toute façon, bien sûr, hein, nous, c'est vrai que nous, à Alice, on travaille beaucoup sur les croisements entre théâtre, cinéma, musique dans l'espace public. Donc c'est vrai qu'on n'aime pas, on parle souvent d'art vivant et d'art mort. J'ai du mal à penser que le cinéma est un art mort aussi. Après, c'est réinventer les manières de le faire, de le partager, puis de le diffuser surtout. Parce qu'effectivement, alors ça va être de... L'arrivée du numérique, c'est magnifique, mais ça va être aussi les contraintes de, d'une production de plus en plus formatée. Et ces petits formats, parce que moi j'ai trouvé ça super, je connaissais la première fois que j'ai un Kikloche, mais comme la nouvelle, comme le court-métrage, comme la petite forme permet l'expérimentation. Un réalisateur, un metteur en scène, un artiste, sur une petite forme, va explorer peut-être des choses... va prendre moins de risques financiers, tout connement, dans les risques de production. Il y a moins de pression d'enjeux de production, donc forcément plus de liberté de création aussi. Et donc c'est un moyen, c'est vraiment un moyen d'essayer et des choses que les spectateurs sur une heure et demie n'accepteraient pas forcément parce qu'ils n'ont pas l'habitude, parce que c'est un peu différent, parce qu'ils n'ont pas forcément les clés de lecture. Nous, on le voit vraiment avec les courts-métrages qu'on propose, hein, parce qu'il y a des courts-métrages avec une écriture assez singulière, hein, qu'on n'aurait pas du tout l'habitude de voir en long-métrage ou dans la production actuelle du cinéma mondial. Mais du coup, sur le format d'un court-métrage, puis si on s'ennuie pendant 9 minutes, on va pas être trop énervé. Si on s'ennuie pendant une heure et demie, ça devient lourd, quitter
la caravane, voilà. En l'occurrence, pas la salle de cinéma.
Moi j'aime bien ce format-là. Donc, je trouve que ça se ressemble, comme la nouvelle. Tout d'un coup, on peut essayer des choses en nouvelle et c'est tout d'un coup un petit univers cohérent, fort. Il y a une narration qui doit se raconter en 9 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 1 quart d'heure, 20 minutes, enfin peu importe la durée, mais cette narration se raconte quand même. Donc pour moi, il n'y a pas de différence, il n'y a aucune différence.
Et justement, la diversité se fait aussi dans le choix des courts-métrages que vous proposez, parce que véritablement, vous avez un stock de courts-métrages, de films. Et qui ne sont pas les mêmes en fait que vous proposez au public. Donc vous discutez un peu avec eux avant. On parle des histoires de rêves, d'utopie, notamment de Benjamin Minorette, de vie et de fêtes inventées. Ça veut dire quoi? C'est quoi ces films?
Ça c'est les marottes de Benjamin. Ça c'est les marottes de ce réalisateur ont été vraiment dans Effectivement, l'utopie et puis reprendre qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de continuer à rêver, de continuer à inventer la vie. Je l'ai dit beaucoup aujourd'hui, donc j'ai l'impression de me répéter, mais les auditeurs m'ont pas entendu. Non. Benjamin, il aime bien dire que de toute façon, le réel dépasse toujours la fiction. Donc c'est pour ça qu'il aime se nourrir des gens qui croisent, des gens dans un village comme ça, dans Vivoin, comme nous à Portrait de Rue. Hein, donc il y a une filiation. Donc la réalité dépasse toujours la fiction, mais la fiction met du sens à cette réalité. Et donc on est dans cet aller-retour effectivement entre le réel, le rêve, l'utopie, l'onirisme, pour faire œuvre aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire d'être humain sur Terre, des questions qui nous relient, en fait.
Alors concrètement, les gens arrivaient, vous ne leur disiez pas « Venez, j'ai quelque chose à vous faire voir, un film à vous faire voir, on va discuter avant ». C'est ça le concept
Nous, on le fait, on prend ce temps-là, parce que effectivement aussi on consomme beaucoup d'images, on est une société où l'image est consommée, archi-consommée aussi. Et on le voit aussi beaucoup, nous, quand on s'installe et que les enfants, tout d'un coup, dès qu'ils rentrent, ils veulent rentrer sans forcément prendre le temps de je vais voir quelque chose. Donc nous,
c'est de
les avoir dans la salle d'attente, les quatre personnes, ça nous permet déjà de les rencontrer, de voir aussi à quel niveau est-ce qu'ils connaissent le court-métrage, est-ce qu'ils en ont déjà vu, est-ce qu'ils en ont jamais vu, est-ce qu'ils viennent d'où, nous, ça nous permet de les ressentir pour savoir quel cadeau on va leur faire. C'est assez dur de faire un cadeau à quelqu'un qu'on connaît absolument pas. Ou alors après, c'est un cadeau qui se fait au hasard. Enfin, c'est... Parce que là, effectivement, puis après, il faut aussi, nous, ça nous permet d'être en continu. Et puis, pendant que des gens vont voir un film et sont dans la caravane, nous, on accueille les autres qui vont rentrer. Puis, alors, si le film d'avant dure 10 minutes, et ben, on reste 10 minutes à parler de Benjamin Minoret, des gens qui sont là. Et puis, si ça dure 4 minutes, ça dure 4 minutes. Si ça dure 20 minutes, et ben, ça dure 20 minutes.
Et les gens ont été satisfaits. Moi, j'ai vu, je peux témoigner, j'ai vu des gens qui sont partis heureux, qui vous ont remercié. Voilà.
Mais oui, parce que justement, on casse. C'est ça qui est bien. Moi, j'adore. Je la tourne depuis longtemps, cette caravane, et puis je connais Benjamin depuis longtemps. Puis j'ai décidé de continuer son aventure parce que je la trouve très belle. Et puis ça m'énerverait que Benjamin, avec l'arrêt de la mort de Benjamin, ce cinéma s'arrête. C'est un bel écrin déjà, c'est un vrai cinéma. Hein. Les gens sont souvent surpris quand ils rentrent dans la caravane parce que c'est un vrai cinéma.
Avec climatisation.
Mais ça,
aujourd'hui, c'est important.
Voilà, c'est plus pour le vidéoprojecteur en fait.
Ouais,
c'est plus pour le projecteur, mais bon.
D'accord.
Mais ce temps de rencontre intime en fait, où on prend le temps. Effectivement, on n'est pas vraiment. On décale le spectaculaire, on décale pour être aussi dans la rencontre.
Voilà, on va s'arrêter là. Hein. Les cloches sonnent, il est passé,
c'est
les vêpres, je ne sais pas, c'est 19h passées. Qui cloche, et puis les cloches sonnent, donc ça colle tout à fait. Merci beaucoup, Virginie. Je rappelle que vous étiez avec Stéphane qui vous accompagne. Et donc vous êtes du groupe artistique Alice, de Nantes, cinéma ambulant, et que vous avez fait ici le projet de portrait de rue. Portrait de rue, c'est ça. Voilà,
tout
ici à Vivoin, et qu'on peut voir encore des photos que vous
des
avez
traces,
réalisées.
Ce qu'on appelle la trace, nous, ce qu'on appelle, c'est l'étape de la trace.
D'accord, et vous êtes ambulant, itinérant, vous allez de ville en ville, de village en village, et qu'on peut vous retrouver sur http://alicegroupart.canalblog.com.
Alors, le plus simple, c'est de faire www.groupe-alice.fr. Ça marche et c'est plus simple à retenir.
Entendu, c'est plus simple à retenir et après, on peut avoir toutes les informations qu'on a. Merci beaucoup, Virginie.
Merci à vous.
Et bonne fin de dimanche.
Pareil.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Les micros de Fréquence Oscillée voyagent pour vous faire respirer et découvrir l'air du pays de la Haute-Sarthe. Et vivre des rencontres, des échanges, des entretiens en direct d'une manifestation, d'un lieu, comme si vous y étiez.
La 8e édition du festival Qui cloche s'est déroulée les 29 et 30 juin au prieuré de Vivoin. Fidèle au festival de petites formes spectaculaires à la campagne, organisé par l'association Festival en Pays de Haute-Sarthe, votre radio fréquencier y était pour une retransmission en direct. Tout l'été, retrouvez les interviews des artistes et des différents acteurs présents.